Chapitre 19. Saint Janvier, martyr de l'Église. Saint Janvier n'est pas un saint de création moderne. Ce n'est pas un patron banal et vulgaire, acceptant les offres de tous les clients, accordant sa protection au premier venu et se chargeant des intérêts de tout le monde. Son corps n'a pas été recomposé dans les catacombes aux dépens d'autres martyrs plus ou moins inconnus, comme celui de Sainte Philomène. Son sang n'a pas jailli d'une image de pierre, comme celui de la Madone de l'Arc. Enfin, les autres saints ont bien fait quelques miracles pendant leur vie, miracles qui sont parvenus jusqu'à nous par la tradition et par l'histoire, tandis que le miracle de Saint Janvier s'est perpétué jusqu'à nos jours, et se renouvelle deux fois par an, à la grande gloire de la ville de Naples et à la grande confusion des athées. Saint Janvier remonte, par son origine, au premier siècle de l'Église. Évêque, il a prêché la parole du Christ et a converti au véritable culte des milliers de païens. Martyr, il a enduré toutes les tortures inventées par la cruauté de ses bourreaux et a répandu son sang pour la foi. Élu du ciel, avant de quitter ce monde où il avait tant souffert, il a adressé à Dieu une prière suprême pour faire cesser la persécution des empereurs. Mais là se bornent ses devoirs de chrétien et sa charité de cosmopolite. Citoyen avant tout, Saint Janvier n'aime réellement que sa patrie. Il la protège contre tous les dangers, il la venge de tous ses ennemis. Civi, patrono, vindici, comme le dit une vieille tradition napolitaine. Le monde entier serait menacé d'un second déluge que Saint Janvier ne lèverait pas le bout du petit doigt pour l'empêcher. Mais que la moindre goutte d'eau puisse nuire aux récoltes de sa bonne ville, Saint Janvier remuera ciel et terre pour ramener le beau temps. Saint Janvier n'aurait pas existé sans Naples, et Naples ne pourrait plus exister sans Saint Janvier. Il est vrai qu'il n'y a pas de ville au monde qui ait été plus de fois conquise et dominée par l'étranger. Mais grâce à l'intervention active et vigilante de son protecteur, les conquérants ont disparu, et Naples est restée. Les Normands ont régné sur Naples, mais Saint Janvier les a chassés. Les Souabes ont régné sur Naples, mais Saint Janvier les a chassés. Les Angevins ont régné sur Naples, mais Saint Janvier les a chassés. Les Aragonais ont usurpé le trône à leur tour, mais Saint Janvier les a punis. Les Espagnols ont tyrannisé Naples, mais Saint Janvier les a battus. Enfin, les Français ont occupé Naples, mais Saint Janvier les a y conduits. Et qui sait ce que fera Saint Janvier pour sa patrie? Quelle que soit la domination indigène ou étrangère, légitime ou usurpatrice, équitable ou despotique, qui pèse sur ce beau pays, il est une croyance au fond du cœur de tous les Napolitains, croyance qui les rend patients jusqu'au stoïcisme. C'est que tous les rois et tous les gouvernements passeront et qu'il ne restera en définitive que le peuple et Saint Janvier. L'histoire de Saint Janvier commence avec l'histoire de Naples, et ne finira, selon toute probabilité, qu'avec elle. Toutes deux se côtoient sans cesse, et à chaque grand événement heureux ou malheureux, elles se touchent et se confondent. Au premier abord, on peut bien se tromper sur les causes et les effets de ces événements, et les attribuer, sous la foi d'historiens ignorants ou prévenus, à telle ou telle circonstance dont ils vont chercher bien loin la source. Mais en approfondissant le sujet, on verra que, depuis le commencement du IVe siècle jusqu'à nos jours, Saint Janvier est le principe ou la fin de toute chose, si bien qu'aucun changement ne s'y est accompli que par la permission, par l'ordre ou par l'intervention de son puissant protecteur. Aussi cette histoire présente-t-elle trois phases bien distinctes, et doit-elle être envisagée sous trois aspects bien différents. Dans les premiers siècles, elle revêt l'allure simple et naïve d'une légende de Grégoire de Tours. Au Moyen Âge, elle prend la marche poétique et pittoresque d'une chronique de Froissart. Enfin, de nos jours, elle offre l'aspect railleur et sceptique d'un conte de Voltaire. Nous allons commencer par la légende. Comme de raison, la famille de Saint Janvier appartient à la plus haute noblesse de l'Antiquité. Le peuple qui, en 1647, donnait à sa république le titre de Sérénissime Royale République Napolitaine et qui, en 1799, poursuivait les patriotes à coups de pierre pour avoir osé abolir le titre d'excellence, n'aurait jamais consenti à se choisir un protecteur d'origine plébéienne. Le Lazzarone est essentiellement aristocrate. La famille de Saint-Janvier descend en droite ligne des Januari de Rome, dont la généalogie se perd dans la nuit des âges. Les premières années du saint sont restées ensevelies dans l'obscurité la plus profonde. Il ne paraît en public qu'à la dernière époque de sa vie, pour prêcher et souffrir, pour confesser sa croyance et mourir pour elle. Il fut nommé à l'archevêché de Bénévent vers l'an de grâce 504, sous le pontificat de saint Marcellin. Étrange destinée de l'évêché bénéventin, qui commence à Saint-Janvier et qui finit à Monsieur de Talleyrand. Une des trois plus terribles persécutions que l'Église ait endurées est, comme chacun sait, celle des empereurs Dioclétien et Maximien. Les chrétiens furent poursuivis en 502 avec un tel acharnement que dans l'espace d'un seul mois, 17 000 martyrs tombèrent sous le glaive de ces deux tyrans. Cependant, 2 ans après la promulgation de l'édit qui frappait de mort indistinctement tous les fidèles, hommes et femmes, enfants et vieillards, l'Église naissante parut respirer un instant. Aux empereurs Dioclétien et Maximien, qui venaient d'abdiquer, avaient succédé Constance et Galère. Il était résulté de cette substitution que, par ricochet, un changement pareil s'était opéré dans les proconsuls de la Campanie et qu'à Dracontius avait succédé Timothée. Au nombre des chrétiens entassés dans les prisons de Cumes par Dracontius se trouvaient Sosius, diacre de Misène, et Proculus, diacre de Pouzols. Pendant tout le temps qu'avait duré la persécution, saint Janvier n'avait jamais manqué, au risque de sa vie, de leur apporter des consolations et de secours. Et, quittant son diocèse de Bénévent pour accourir là où il croyait sa présence nécessaire, il avait bravé maintes et maintes fois les fatigues d'un long voyage et la colère du proconsul. À chaque nouveau soleil politique qui se lève, un rayon d'espoir passa à travers les barreaux des prisonniers de l'autre règne. Il en fut ainsi à l'avènement au trône de Constance et de Galère. Sosius et Proculus se crurent sauvés. Saint Janvier, qui avait partagé leur douleur, se hâta de venir partager leur joie. Après avoir récité si longtemps avec ses chers fidèles les psaumes de la captivité, il entonna le premier avec eux le cantique de la délivrance. Les chrétiens, relâchés provisoirement, rendaient grâce au Seigneur dans une petite église située aux environs de Pouzols, et le Saint-Évêque, assisté par les deux diacres Sosius et Proculus, s'apprêtait à offrir à Dieu le sacrifice de la messe, lorsque tout à coup, il se fit au dehors un grand bruit, suivi d'un long silence. Les prisonniers, rendus il y avait peu d'instants à la liberté, prêtèrent l'oreille. Les deux diacres se regardèrent l'un l'autre et saint Janvier attendit ce qui allait se passer. Immobile et debout devant la première marche de l'autel qu'il allait franchir, les mains jointes, le sourire aux lèvres et le regard fixé sur la croix avec une indicible expression de confiance. Le silence fut interrompu par une voix qui lisait lentement le décret de Dioclétien, remis en vigueur par le nouveau proconsul Timothée, et ces terribles paroles, que nous traduisons textuellement, ralentirent à l'oreille des chrétiens prosternés dans l'église. Dioclétien, 3 fois grand, toujours juste, empereur éternel, à tous les préfets et proconsuls du Romain Empire, salut. Un bruit qui ne nous a pas médiocrement déplu, étant parvenu à nos oreilles divines, c'est-à-dire que l'hérésie de ceux qui s'appellent chrétiens, hérésie de la plus grande impiété, valde impiam, reprend de nouvelles forces, que l'édit chrétien honore comme Dieu ce Jésus enfanté par je ne sais quelle femme juive, insultant par des injures et des malédictions le grand Apollon et Mercure, et Hercule et Jupiter lui-même, tandis qu'il vénère ce même Christ que les Juifs ont cloué sur une croix comme un sorcier. À cet effet, nous ordonnons que tous les chrétiens, hommes ou femmes, dans toutes les villes et contrées, subissent les supplices les plus atroces s'ils refusent de sacrifier à nos dieux et d'abjurer leur erreur. Si cependant quelques-uns parmi eux se montrent obéissants nous voulons bien leur accorder leur pardon. Au cas contraire, nous exigeons qu'ils soient frappés par le glaive et punis par la mort la plus cruelle, morte pessima penuir. Sachez enfin que si vous négligez nos divins décrets, nous vous punirons des mêmes peines dont nous menaçons les coupables. Lorsque le dernier mot de la loi terrible fut prononcé, Saint Janvier adressa à Dieu une muette prière pour le supplier de faire descendre sur tous les fidèles qui l'entouraient la grâce nécessaire pour braver les tortures et la mort. Puis, sentant que l'heure de son martyre venait de sonner, il sortit de l'église accompagné par les deux diacres et suivi de la foule des chrétiens qui bénissaient à haute voix le nom du Seigneur. Il traversa une double haie de soldats et de bourreaux, étonnés de tant de courage. Et, chantant toujours au milieu des populations ameutées qui se pressaient pour voir le Saint-Évêque, il arriva à Nola, après une marche qui parut un triomphe. Timothée l'attendait du haut de son tribunal, élevé, dit la chronique, comme de coutume, au milieu de la place. Saint Janvier, sans éprouver le moindre trouble à la vue de son juge, s'avança d'un pas ferme et sûr dans l'enceinte, ayant toujours à sa droite Sosius, diacre de Misène, et à sa gauche Proculus, diacre de Pouzols. Les autres chrétiens se rangèrent en cercle et attendirent en silence l'interrogatoire de leur chef. Timothée n'était pas sans savoir la grande naissance de Saint Janvier. Aussi, par égard pour le civis Romanus, poussa-t-il la complaisance jusqu'à l'interroger, tandis qu'il aurait parfaitement pu, dit le père Antonio Caracciolo, le condamner sans l'entendre. Quant à Timothée, tous les écrivains s'accordent à le peindre comme un païen fort cruel, comme un tyran exécrable, comme un préfet impie, comme un juge insensé. À ses traits déjà passablement caractéristiques, un chroniqueur ajoute qu'il était tellement altéré de sang que Dieu, pour le punir, couvrait parfois ses yeux d'un voile sanglant qui le privait momentanément de la vue et qui, tout le temps que durait sa cécité, lui causait les plus atroces douleurs. Tels étaient les deux hommes que la Providence amenait en face l'un de l'autre pour donner une nouvelle preuve du triomphe de la foi. « Quel est ton nom ?» demanda Timothée. « Janvier, » répondit le saint. « Ton âge ? 33 ans. Ta patrie ? Naples. Ta religion ? Celle du Christ. Et tous ceux qui t'accompagnent sont aussi chrétiens ? Lorsque tu les interrogeras, j'espère en Dieu qu'ils répondront comme moi qu'ils sont tous chrétiens. Connais-tu les ordres de notre divin empereur ? Je ne connais que les ordres de Dieu. Tu es noble ? Je suis le plus humble des serviteurs du Christ. Et tu ne veux pas renier ton Dieu. Je renie et je maudis vos idoles, qui ne sont que du bois fragile et de la boue pétrie. Tu sais les supplices qui te sont réservés ? Je les attends avec calme. Tu te crois assez fort pour braver ma puissance ? Je ne suis qu'un faible instrument que le moindre choc peut briser, mais mon Dieu Tout-Puissant peut me défendre de la fureur et te réduire en cendres au même instant où tu blasphèmes son nom. Nous verrons lorsque tu seras jeté dans la fournaise ardente, si ton Dieu voudra t'en tirer. Dieu n'a-t-il pas sauvé de la fournaise Ananias, Azarias et Mirzald ? Je te jetterai aux bêtes dans le cirque. Dieu n'a-t-il pas tiré Daniel de la fosse aux lions ? Je te ferai trancher la tête par l'épée du bourreau. Si Dieu veut que je meure, que sa volonté soit faite. Soit, je verrai jaillir ton sang maudit, ce sang que tu déshonores en trahissant la religion de tes ancêtres pour un culte d'esclaves. Ô malheureux insensé ! S'écria le saint avec un inexprimable accent de compassion et de douleur. Avant que tu jouisses du spectacle que tu te promets, Dieu te frappera de la cécité la plus affreuse, et la vue ne te sera rendue qu'à ma prière, afin que tu puisses être témoin du courage avec lequel savent mourir les martyrs du Christ. « Eh bien, si c'est un défi, je l'accepte, » répondit le préconsul. « Nous verrons si, comme tu le dis, ta foi sera plus puissante que la douleur. » Puis, se tournant vers les licteurs, il ordonna que le saint fût lié et jeté dans une fournaise ardente. Les deux diacres pâlirent à cet ordre, et tous les chrétiens qui l'entendirent poussèrent un long et douloureux gémissement. Car quoique chacun d'eux fût personnellement prêt à subir le martyre, Cependant, le cœur leur manquait à tous du moment qu'il s'agissait d'assister au supplice de leur saint évêque. À ce cri de pitié et de douleur qui s'éleva tout à coup dans la foule, saint Janvier se tourna d'un air grave et sévère, et étendant la main droite pour imposer silence. « Eh bien, mes frères, dit-il, que faites-vous? Voulez-vous, par vos plaintes, réjouir l'âme des impies? En vérité, je vous le dis, rassurez-vous, car l'heure de ma mort n'est pas venue, et le Seigneur ne me croit pas encore digne de recevoir la palme du martyr. Prosternez-vous et priez cependant, non pas pour moi, que la flamme du brasier ne saurait atteindre, mais pour mon persécuteur, qui est voué au feu éternel de l'enfer. » Timothée écouta les paroles du saint avec un sourire de mépris, et il fit signe au bourreau d'exécuter son arrêt. Saint Janvier fut jeté dans la fournaise, et aussitôt l'ouverture par laquelle on l'avait poussé fut murée au dehors aux yeux de la population entière qui assistait à ce spectacle. Quelques minutes après, des tourbillons de flammes et de fumée, s'élevant vers le ciel, avertirent le proconsul que ses ordres étaient exécutés. Et se croyant vengé à tout jamais de l'homme qui avait osé le braver, il rentra chez lui plein de l'orgueil du triomphe. Quant aux autres chrétiens, ils furent ramenés dans leur prison pour y attendre le jour de leur supplice, et la foule se dissipa sous l'impression d'une pitié profonde et d'une sombre terreur. Les soldats, occupés jusqu'alors à écarter les curieux et à maintenir le bon ordre, n'ayant plus rien à faire dès que le peuple se fut écoulé, se rapprochèrent lentement de la fournaise et se mirent à causer entre eux des événements du jour et du calme étrange qu'avait montré le patient au moment de subir une mort si terrible. Lorsque l'un d'eux, s'arrêtant tout à coup au milieu de sa phrase commencée, fit signe à son interlocuteur de se taire et d'écouter. Celui-ci écouta, en effet, et impose un silence à son tour à son voisin, si bien que, le geste se répétant de proche en proche, tout le monde demeura immobile et attentif. Alors des chants célestes, partant de l'intérieur de la fournaise, frappèrent les oreilles des soldats, et la chose leur parut si extraordinaire qu'ils se crurent un instant le jouet d'un rêve. Cependant les chants devenaient plus distincts, et bientôt ils purent reconnaître la voix de saint Janvier au milieu d'un cœur angélique. Cette fois, ce ne fut plus l'étonnement, mais bien la frayeur qui les saisit. Et voyant qu'il devenait urgent de prévenir le préfet de l'événement inattendu, quoique prédit, qui se passait sur la place, ils coururent chez lui, pâles et effarés, et lui racontèrent avec l'éloquence de la peur l'incroyable miracle dont ils venaient d'être témoins. Timothée haussa les épaules à cet étrange récit, et menaça ses soldats de les faire battre de verge, s'ils se laissaient dominer par de si puériles frayeurs. Mais alors ils jurèrent par tous les dieux, non seulement d'avoir reconnu distinctement la voix de saint Janvier et l'air qu'il chantait dans la fournaise, mais encore d'avoir retenu les paroles du cantique et les actions de grâce qu'il rendait au Seigneur. Le proconsul, irrité, mais non convaincu par une telle obstination, donna l'ordre immédiatement que la fournaise fût ouverte en sa présence, se réservant de punir avec la dernière rigueur, après leur avoir mis sous les yeux les restes carbonisés du martyr, ces faux rapporteurs qui venaient le déranger pour lui faire de pareils récits. Lorsque le préfet arriva sur la place, il la trouva de nouveau tellement encombrée par le peuple qu'il eut peine à se frayer un passage. Le bruit du miracle ayant rapidement circulé dans la ville, les habitants de Nola, se pressant en tumulte sur le lieu du supplice, demandaient à grands cris la démolition de la fournaise et menaçaient le proconsul, non point encore par des paroles ou des faits, mais par ces clameurs sourdes qui précèdent l'émeute comme le roulement du tonnerre précède l'ouragan. Timothée demanda la parole, et lorsque le calme fut suffisamment rétabli pour qu'il pût se faire entendre, il répondit que le désir du peuple allait être satisfait sur le champ, et qu'il venait précisément donner l'ordre d'ouvrir la fournaise, pour offrir un éclatant démenti au bruit absurde répandu parmi la foule. À ces mots, les cris cessent, la colère s'apaise et fait place à une curiosité haletante. Toutes les respirations sont suspendues, tous les yeux sont fixés sur un point. À un signe de Timothée, les soldats s'avancent vers la fournaise, armés de marteaux et de pioches. Mais aux premières briques qui tombent sous leurs coups, Un tourbillon de flammes s'échappe subitement du foyer et les réduit en cendres. À l'instant même, les murs tombent comme par enchantement, et au milieu d'une clarté éblouissante, le Saint-Évêque apparaît dans toute sa gloire. Le feu n'avait pas touché un seul cheveu de son front. La fumée n'avait pas terni la blancheur de ses vêtements. Un essaim de petits chérubins soutenait au-dessus de sa tête une auréole éclatante et une musique invisible, dont les accords célestes étaient réglés par la harpe des séraphins, accompagnait son chant. Alors Saint Janvier se mit à marcher de long en large sur les charbons ardents, afin de bien convaincre les incrédules que le feu de la terre ne pouvait rien sur les élus du Seigneur. Puis, comme on aurait pu douter encore de la réalité du miracle, voulant prouver que c'était bien lui, et non pas un esprit, pas un fantôme, pas une apparition surhumaine que l'on venait de voir, Saint Janvier rentra lui-même dans sa prison et se remit à la disposition du préfet. À la vue de ce qui venait de se passer, Timothée s'était senti pris d'une telle frayeur que, craignant quelque révolte, il s'était réfugié dans le temple de Jupiter. Ce fut là qu'il apprit que le saint, qui pouvait, au milieu de l'enthousiasme général dont ce miracle l'avait fait l'objet, s'éloigner et se soustraire à son pouvoir, était au contraire rentré dans sa prison et y attendait le nouveau supplice qu'il lui plairait de lui infliger. Cette nouvelle lui rendit toute son assurance, et avec son assurance, toute sa colère. Il descendit dans la prison du martyr pour acquérir la certitude qu'il avait bien affaire à l'évêque de Bénévent lui-même, et non point à quelque spectre que la magie eût fait survivre à son corps. En conséquence, et pour qu'il ne lui restât aucun doute à ce sujet, après avoir tâté Saint Janvier pour s'assurer qu'il était bien de chair et d'os, il le fit dépouiller de ses vêtements sacerdotaux, le fit lier à une colonne, que la vénération des fidèles a conservé jusqu'à nos jours comme un nouveau témoin du martyr des saints, et le fit fouetter par ses lecteurs, jusqu'à ce que le sang jaillît. Alors il trempa dans ce sang le coin de sa toge, et s'assura que c'était bien du sang humain, et non quelque liqueur rouge qui en avait l'apparence. Puis, satisfait de ce premier essai, il ordonna que le patient fut appliqué à la torture. La torture fut longue et douloureuse. Saint Janvier en sortit les chairs meurtries et les os disloqués. Mais, pendant tout le temps qu'elle dura, les bourreaux ne purent lui arracher une plainte. Lorsque les souffrances devenaient insupportables, Saint Janvier louait le Seigneur. Timothée, voyant que la question n'avait d'autre résultat pour lui que de le faire souffrir, décida que Saint Janvier serait jeté dans le cirque et exposé aux tigres et aux lions. Seulement il hésita quelque temps pour savoir si l'exécution aurait lieu dans le cirque de Pouzols ou à Nola. Enfin il se décida pour celui de Pouzols. Un double calcul présida à cette décision. D'abord, le cirque de Pouzols était plus vaste que celui de Nola, et par conséquent pouvait contenir un plus grand nombre de spectateurs. Et puis, une telle fermentation s'était manifestée à la suite du premier miracle, qu'il pensait que les bourreaux de Saint Janvier auraient tout à craindre si le martyr sortait triomphant d'une seconde épreuve. Or, tandis que le proconsul avisait, au moyen le plus sûr et le plus cruel de transporter le saint d'une ville à l'autre, on vint lui dire que Saint Janvier, parfaitement guéri de la torture de la veille, pouvait faire le voyage à pied. À cette nouvelle, une idée infernale traversa l'esprit de Timothée. Il avisa que ce serait faire merveille que d'ajouter la honte à la douleur, et imagina de faire traîner son char, de Nola à Pouzols, par le Saint-Évêque et par ses deux compagnons, les diacres Sosius et Proculus. Il espérait ainsi ou que les trois martyrs tomberaient d'épuisement ou de douleur au milieu de la route, ou qu'ils arriveraient au milieu de leur supplice tellement humiliés et flétris par les huées de la populace, que leur sort n'inspirerait plus pitié ni regret. La chose fut donc exécutée comme l'avait décidé le proconsul. On attela Saint Janvier au char consulaire, entre Sosius et Proculus. Et Timothée, s'y étant assis, intima à ses lecteurs l'injonction de frapper de verge les trois patients chaque fois qu'ils s'arrêteraient ou seulement ralentiraient le pas. Puis il donna l'ordre du départ, en levant sur eux le fouet dont lui-même était armé. Mais Dieu ne permit même pas, que le fouet levé sur les martyrs retomba sur eux. Saint Janvier s'élança d'un bond, entraîna avec lui ses deux compagnons, renversant sur son passage soldats, lecteurs et curieux. Beaucoup dirent alors avoir vu pousser sur les épaules des trois hommes du Seigneur de ces grandes ailes archangéliques à l'aide desquelles les messagers du ciel traversent l'Empyrée avec la rapidité de l'éclair. Mais la vérité est que le char s'éloigna, emporté par une telle rapidité qu'il laissa bientôt derrière lui non seulement la foule des piétons, mais les cavaliers romains qui lancèrent inutilement leurs montures à sa poursuite, et le virent bientôt disparaître au milieu d'un nuage de poussière. Ce n'était pas à cela que s'était attendu le proconsul. Il ne s'était occupé que des moyens de pousser son saint attelage en avant, et non de le retenir. Aussi, se trouvant emporté avec une rapidité dont les oiseaux de l'air pouvaient à peine donner une idée, il ne songea qu'à se cramponner au rebord du char pour ne point être renversé. Mais bientôt un vertige le prit. Il lui sembla que le char cessait de toucher la terre, que tous les objets, emportés d'une course égale à la sienne, fuyaient en arrière, tandis que lui s'élançait en avant. La lumière manqua à ses yeux, le souffle à sa bouche, l'équilibre à son corps. Il se laissa tomber à genoux au fond du char, pâle, haletant, les mains jointes. Mais les trois saints ne pouvaient le voir, emportés qu'ils semblaient être eux-mêmes par une puissance surhumaine. Enfin, arrivés à la colline d'Antignano, à l'endroit même où l'on trouve encore aujourd'hui une petite chapelle élevée en mémoire de ce miraculeux événement, le proconsul, rassemblant toutes les forces de son agonie, poussa un tel cri de détresse et de douleur que Saint Janvier l'entendit, malgré les bruissements des roues, et que, s'arrêtant avec ses deux compagnons et se retournant vers son juge, il lui demanda d'une voix fraîche et reposée, qui ne trahissait point la moindre lassitude, « Qu'y a-t-il, maître ?» Mais Timothée resta quelques instants sans pouvoir articuler une seule parole, tandis que les deux diacres profitaient de cet instant de halte pour respirer à pleine poitrine. Saint Janvier, au bout de quelques secondes, renouvela sa question. « Il y a que je veux relayer ici, » dit le proconsul. « Relayons, » répondit Saint Janvier. Timothée descendit de son char, mais les trois saints restèrent attachés à leur chaîne. Et cependant, à l'émotion du proconsul, à la sueur qui coulait de son front, au souffle précipité qui sortait de sa poitrine, on eût pu croire que c'était lui qui avait jusqu'alors été attelé à la place des chevaux, et que c'était les trois saints qui avaient tenu la place du maître. Mais dès que le proconsul sentit son pied sur la terre, et que, par conséquent, il se vit hors de danger, sa haine et sa colère le reprirent, et s'avançant vers Saint Janvier, le fouet levé, « Pourquoi, lui dit-il, m'as-tu conduit de Nola ici avec une si grande rapidité? Ne m'avais-tu pas commandé d'aller le plus vite que je pourrais? Oui, mais qui allait se douter que tu irais plus vite que ceux de mes cavaliers, qui étaient les mieux montés et qui n'ont pu te suivre? J'ignorais moi-même de quel pas j'irais, quand les anges m'ont prêté leurs ailes. Ainsi tu crois que l'assistance que tu as reçue vient de ton Dieu. Tout vient de lui. Tu persistes dans ton hérésie? La religion du Christ est la seule vraie, la seule pure, la seule digne du Seigneur. Tu sais quelle mort t'attend à l'autre bout de la route, reprit le proconsul. Ce n'est pas moi qui ai demandé à m'arrêter, répondit Saint Janvier. C'est juste, répondit Timothée. Aussi allons-nous repartir. À tes ordres, maître. Ainsi je vais remonter dans mon char. Remonte. Mais écoute-moi bien, j'écoute. C'est à la condition que tu n'iras plus du train que tu as été. J'irai du train que tu voudras. Le promets-tu? Je le promets. Sur ta parole de noble. Sur ma foi de chrétien. C'est bien. Es-tu prêt, maître? Allons, dit le proconsul. Allons, mes frères, dit Saint Janvier à ses compagnons. Faisons ce qui nous est ordonné. Et le char repartit de nouveau. Mais le saint, observant scrupuleusement la promesse qu'il avait faite, ne marcha plus qu'au pas, ou tout au plus au petit trot. Encore se tournait-il de temps en temps vers Timothée pour lui demander si c'était là l'allure qui lui convenait. Ce fut ainsi qu'ils arrivèrent sur la place de Pouzols, où pas une âme n'attendait le proconsul, car ils avaient marché d'un tel train que la nouvelle de leur arrivée n'avait pu les précéder. Aucun ordre n'était donc donné pour le supplice. Aussi force fut à Timothée de le remettre à un autre moment. Il se fit donc purement et simplement conduire à son palais, et appelant ses esclaves, il ordonna que les trois saints fussent dételés et conduits dans les prisons de Pouzzoles, tandis que lui se parfumait dans un bain. Après quoi, brisé de fatigue, il se reposa 3 jours et 3 nuits. Le matin du 4e jour, la foule se pressait sur les gradins de l'amphithéâtre. Elle y était accourue de tous les points de la campagne, car cet amphithéâtre était un des plus beaux de la province, et c'était pour lui qu'on réservait les tigres et les lions les plus féroces, qui envoyaient d'Afrique à Rome, abordaient et se reposaient un instant à Naples. C'était dans ce même amphithéâtre, dont les ruines existent encore aujourd'hui, que Néron, 230 ans auparavant, avait donné une fête à Tiridate. Tout avait été préparé pour frapper d'étonnement le roi d'Arménie. Les animaux les plus puissants et les gladiateurs les plus adroits s'étaient exercés devant lui. Mais lui était resté impassible et froid à ce spectacle. Et lorsque Néron lui demanda ce qu'il pensait de ces hommes dont les efforts surhumains avaient forcé le cirque d'éclater en tonnerre d'applaudissements, Tiridate, sans rien répondre, s'était levé en souriant et, lançant son javelot dans le cirque, il avait percé de part en part 2 taureaux d'un seul coup. À peine le proconsul y eut-il pris place sur son trône, au milieu de ses licteurs, que les trois saints, amenés par son ordre, furent placés en face de la porte par laquelle les animaux devaient être introduits. À un signe du proconsul, la grille s'ouvrit et les animaux de carnage s'élancèrent dans l'arène. Alors vu, 30 000 spectateurs battirent des mains avec joie. De leur côté, les animaux, étonnés, répondirent par un rugissement de menace qui couvrit toutes les voix et tous les applaudissements. Puis, excités par les cris de la multitude, dévorés par la faim à laquelle, depuis 3 jours, leurs gardiens les condamnaient, alléchés par l'odeur de la chair humaine dont on les nourrissait au grand jour, les lions commencèrent à secouer leurs crinières, et les tigres à bondir, et les hyènes à lécher leurs lèvres. Mais l'étonnement du proconsul fut grand lorsqu'il vit les lions, les tigres et les hyènes se coucher aux pieds des 3 martyrs, pleins de respect et d'obéissance, tandis que Saint Janvier, toujours calme, toujours souriant, levait la main droite et bénissait les spectateurs. Au même instant, le proconsul sentit descendre sur ses yeux comme un nuage. L'amphithéâtre se déroba à sa vue, ses paupières se collèrent, et il fut plongé tout à coup dans les ténèbres. Mais l'aveuglement n'était rien en comparaison de la souffrance, car à chaque pulsation de l'artère, il semblait au malheureux qu'un fer rouge perçait ses prunelles. La prédiction de Saint Janvier s'accomplissait. Timothée essaya d'abord de dompter sa douleur et d'étouffer ses plaintes devant la multitude. Mais, oubliant bientôt sa fierté et sa haine, il tendit les mains vers le saint, et le pria à haute voix de lui rendre la vue et de le délivrer de ses atroces souffrances. Saint Janvier s'avança doucement vers lui, au milieu de l'attention générale, et prononça cette courte prière. « Monseigneur Jésus-Christ, pardonnez à cet homme tout le mal qu'il m'a fait, et rendez-lui la lumière, afin que ce dernier miracle que vous daigneriez opérer en sa faveur puisse dessiller les yeux de son esprit, et le retenir encore sur le bord de l'abîme où le malheureux va tomber sans retour. En même temps, je vous supplie, ô mon Dieu, de toucher le cœur de tous les hommes de bonne volonté qui se trouvent dans cette enceinte, que votre grâce descende sur eux et les arrache aux ténèbres du paganisme. » Puis élevant la voix et touchant de l'index les paupières du proconsul, il ajouta « Timothée, préfet de la compagnie, ouvre les yeux, et sois délivré de tes souffrances, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Amen, » répondirent les 2 diacres. Et Timothée ouvrit les yeux, et sa guérison s'opéra d'une manière si prompte et si complète qu'il ne se souvenait même plus d'avoir éprouvé aucune douleur. À la vue de ce miracle, 5 000 spectateurs se levèrent, et d'une seule voix, d'un seul cri, d'un seul élan, demandèrent à recevoir le baptême. Quant à Timothée, il rentra au palais, et voyant que le feu était impuissant et les animaux indociles, il ordonna que les 3 saints fussent mis à mort par le glaive. Ce fut par une belle matinée d'automne, le 19 septembre de l'année 305, que Saint Janvier, accompagné des 2 diacres Proculus et Sosius, fut conduit au forum de Vulcano, près d'un cratère à moitié éteint, dans la plaine de la Solfatar, pour y souffrir le dernier supplice. Près de lui marchait le bourreau, tenant dans ses mains une large épée à deux tranchants, et les deux légions romaines, armées de fortes pièces, précédaient ou suivaient le cortège pour ôter au peuple de Pouzols toute velléité de résistance. Pas un cri, pas une plainte, pas un murmure parmi cette foule avilie et tremblante. Un silence de mort planait sur la ville entière, silence qui n'était interrompu que par le piétinement des chevaux et par le bruit des armures. Saint-Janvier n'avait pas fait une cinquantaine de pas dans la direction du forum où son exécution devait avoir lieu, lorsque, au tournant d'une rue, il fut abordé par un pauvre mendiant qui avait eu toutes les peines du monde à se frayer un passage jusqu'à lui, accablé qu'il était par le double malheur de la cécité et de la vieillesse. Le vieillard s'avança en levant le menton et en étendant les bras devant lui. Se dirigeant vers la personne qu'il cherchait avec cet instinct des aveugles qui les guide quelquefois avec plus de sûreté que le regard le plus clairvoyant. Dès qu'il se crut assez près de Saint-Janvier pour être entendu, le malheureux, redoublant d'efforts et de zèle, s'écria d'une voix haute et perçante. « mon père, où êtes-vous, que je puisse me jeter à vos genoux ?»« Par ici, mon fils, » répondit Saint-Janvier en s'arrêtant pour écouter le vieillard. « mon père, pourrais-je être assez heureux pour baiser la poussière que vos pieds enfoulés ?»« Cet homme est fou, » dit le bourreau en haussant les épaules. « Laissez approcher ce vieillard, » dit doucement Saint-Janvier, « car la grâce de Dieu est avec lui. » Le bourreau s'écarta et l'aveugle put enfin s'agenouiller devant le saint. « Que me veux-tu, mon fils ?» demanda Saint-Janvier. « Mon père, je vous prie de me donner un souvenir de vous. Je le garderai jusqu'à la fin de mes jours, et cela me portera bonheur dans cette vie et dans les autres. » « Cet homme est fou, » dit le bourreau avec un sourire de mépris. « Comment, lui dit-il, ne sais-tu pas qu'il n'a plus rien à lui? Tu demandes l'aumône à un homme qui va mourir. » « Cela n'est pas bien sûr, » dit le vieillard en secouant la tête. « Ce n'est pas la première fois qu'il vous échappe. »« Sois tranquille, » répondit le bourreau, « cette fois, il aura affaire à moi. »« Serait-il vrai, mon père? Vous qui avez triomphé du feu, de la torture et des animaux féroces, vous laisserez-vous tuer par cet homme ?»« Mon heure est venue, » répondit le martyr avec joie. « Mon exil est fini. » Il est temps que je retourne dans ma patrie. Écoute, mon fils, interrompit Saint-Janvier, il ne me reste plus que le linge avec lequel on doit me bander les yeux à mon dernier moment. Je te le laisserai après ma mort. Et comment irai-je le chercher? Dit le vieillard. Les soldats ne me laisseront pas approcher de vous. Eh bien, répondit Saint-Janvier, je te l'apporterai moi-même. Merci, mon père. Adieu, mon fils. L'aveugle s'éloigna et le cortège reprit sa marche. Arrivé au forum de Vulcano, les trois saints s'agenouillèrent, et Saint-Janvier, d'une voix ferme et sonore, prononça ces paroles. « Dieu de miséricorde et de justice, puisse enfin le sang que nous allons verser calmer votre colère et faire cesser les persécutions des tyrans contre votre sainte Église. » Puis il se leva, et après avoir embrassé tendrement ses deux compagnons de martyrs, il fit signe au bourreau de commencer son œuvre de sang. Le bourreau trancha d'abord les têtes de Proculus et de Sosius, qui moururent courageusement en chantant les louanges du Seigneur. Mais comme il s'approchait de Saint-Janvier, un tremblement convulsif le saisit tout à coup, et l'épée lui tomba des mains, sans qu'il eût la force de se courber pour la ramasser. Alors Saint-Janvier se banda lui-même les yeux, puis portant la main à son cou. « Eh bien, dit-il au bourreau, qu'attends-tu, mon frère ?» Je ne pourrai jamais relever cette épée, dit le bourreau, si tu ne m'en donnes pas la permission. Non seulement je te le permets, frère, mais je t'en prie. À ces mots, le bourreau sentit que les forces lui revenaient, et levant l'épée à deux mains, il en frappa le sein avec tant de vigueur que non seulement la tête, mais un doigt aussi, furent emportés du même coup. Quant à la prière que Saint-Janvier avait adressée à Dieu avant de mourir, elle fut sans doute agréée par le Seigneur. Car la même année, Constantin, s'échappant de Rome, alla trouver son père et fut nommé par lui son héritier et son successeur dans l'Empire. Si donc tout effet doit se reporter à sa cause, c'est de la mort de Saint-Janvier et de ses deux diacres Proculus et Sosius que date le triomphe de l'Église. Après l'exécution, comme les soldats et le bourreau s'acheminaient vers la maison de Timothée pour lui rendre compte de la mort de son ennemi et de ses deux compagnons, ils rencontrèrent le mendiant à la même place où ils l'avaient laissé. Les soldats s'arrêtèrent pour s'amuser un peu aux dépens du vieillard, et le bourreau lui demanda en ricanant « Eh bien, l'aveugle, as-tu reçu le souvenir qu'on t'avait promis ?»« Oh, impie vous êtes !» s'écria le vieillard en ouvrant les yeux brusquement, et fixant sur tous ceux qui l'entouraient un regard clair et limpide. « Non seulement j'ai reçu le bandeau des mains du saint, lui-même, qui vient de m'apparaître tout à l'heure, mais en appliquant ce bandeau sur mes yeux, j'ai recouvré la vue. Moi, qui étais aveugle de naissance. » Et maintenant, malheur à toi qui as osé porter la main sur le martyr du Christ. Malheur à celui qui a donné sa mort. Malheur à tous ceux qui s'en sont rendus complices. Malheur à vous, malheur. Les soldats se hâtèrent de quitter le vieillard, et le bourreau les devançait pour avoir la gloire de faire le premier son rapport au tyran. Mais la maison du proconsul était vide et déserte. Les esclaves l'avaient pillée. Les femmes l'avaient abandonnée avec horreur. Tout le monde s'éloignait de ce lieu de désolation, comme si la main de Dieu l'eût marqué d'un signe maudit. Le bourreau et son escorte, ne comprenant rien à ce qui se passait, résolurent d'avancer hardiment. Mais au premier pas qu'ils firent dans l'intérieur de la maison, ils tombèrent raides morts. Timothée n'était plus qu'un cadavre informe et pourri, et les émanations pestilentielles qui s'exhalaient de son corps avaient suffi pour asphyxier d'un seul coup les misérables complices de ses iniquités. Cependant, dès que la nuit fut venue, le mendiant s'en alla au forum de Vulcano pour recueillir les restes sacrés du saint évêque. La lune, qui venait de se lever, répandit sa lumière argentée sur la plaine jaunâtre de la Solfatar, de telle sorte qu'on pouvait distinguer le moindre objet dans tous ses détails. Comme le vieillard marchait lentement et regardait autour de lui pour voir s'il n'était pas suivi par quelque espion, il aperçut à l'autre bout du forum une vieille femme, à peu près de son âge, qui s'avançait avec les mêmes précautions. « Bonjour, mon frère, » dit la femme. « Bonjour, ma sœur, » répondit le vieillard. « Qui êtes-vous, mon frère ? Je suis un ami de Saint-Janvier. Et vous, ma sœur ? Moi, je suis sa parente. De quel pays êtes-vous ? De Naples. Et vous ? De Pouzols. Puis-je savoir quel motif vous amène ici à cette heure ? Je vous le dirai quand vous m'aurez expliqué le but de votre voyage nocturne. Je viens pour recueillir le sang de Saint-Janvier. Et moi je viens pour enterrer son corps. Et qui vous a chargé de remplir ce devoir qui n'appartient d'ordinaire qu'aux parents du défunt ? C'est Saint-Janvier lui-même qui m'est apparu peu d'instants après sa mort. Quelle heure pouvait-il être lorsque le saint vous est apparu ? À peu près à la troisième heure du jour. Cela m'étonne, mon frère, car à la même heure il est venu me voir et m'a ordonné de me rendre ici à la nuit tombante. Il y a miracle, ma sœur, il y a miracle. Écoutez-moi, je vous raconterai ce que le saint a fait en ma faveur. Je vous écoute, puis je vous raconterai à mon tour ce qu'il a fait en la mienne. Car ainsi que vous le dites, il y a miracle, mon frère, il y a miracle. Sachez d'abord que j'étais aveugle. Et moi, Percluse, il a commencé par me rendre la vue. Il m'a rendu l'usage des jambes. J'étais mendiant, j'étais mendiante. Il m'a assuré que je ne manquerais de rien jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a promis que je ne souffrirais plus ici-bas. J'ai osé lui demander un souvenir de son affection. Je l'ai prié de me donner un gage de son amitié. Voici le même linge qui a servi à bander ses yeux au moment de sa mort. Voici les deux fioles qui ont servi à célébrer sa dernière messe. Soyez bénie, ma sœur, car je vois bien maintenant que vous êtes sa parente. Soyez bénie, mon frère, car je ne doute plus que vous étiez son ami. À propos, j'oubliais une chose.
Laquelle, mon frère ?
Il m'a recommandé de chercher un doigt qui a dû lui être coupé en même temps que sa tête, et de le réunir à ses saintes reliques. Il m'a bien dit de même que je trouverais dans son sang un petit fétu de paille, et m'a ordonné de le garder avec soin dans la plus petite des deux fioles.
Cherchons.
Cela ne doit pas être bien loin. Heureusement, la lune nous éclaire. C'est encore un bienfait du saint, car depuis un mois, le ciel était couvert de nuages. Voici le doigt que je cherchais. Voici le fétu dont il m'a parlé. Et tandis que le vieillard de Pouzols plaçait dans un coffre le corps et la tête du martyr,
La vieille femme, napolitaine, agenouillée pieusement, recueillait avec une éponge jusqu'à la dernière goutte de son sang précieux et en remplissait les deux fioles que le saint lui avait données lui-même à cet effet. C'est ce même sang qui, depuis 15 siècles, se met en ébullition toutes les fois qu'on le rapproche de la tête du saint. Et c'est dans cette ébullition prodigieuse et inexplicable que consiste le miracle de saint Janvier. Voilà ce que Dieu fit de saint Janvier. Maintenant voyons ce qu'en firent les hommes.